Hello, hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Ben oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir! Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Pascal à Istanbul. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Pascal!
Salut Stéphanie!
Comment ça va?
Ça va bien, écoute. C'est le retour, c'est la reprise tout doucement, ça va très bien.
Ouais, bah il faut reprendre un jour, on n'a pas le choix.
C'est ça, on va toujours être en voyage.
Malheureusement. Bon, aujourd'hui, on parle d'Istanbul. Ça va changer un peu de ce qu'on a déjà fait ensemble sur le podcast, pour que Carrément. Tu nous donnes tes 5 incontournables. Si je bégaye dès le début, on ne va pas en sortir. Avant de démarrer là-dessus, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ont déjà écouté nos épisodes précédents ou expliquer à ceux qui ne te connaissent pas encore, ben, quelle voyageuse tu es ?
Écoute, nous, enfin moi je dis nous parce que je suis une voyageuse en groupe, je voyage toujours avec ma famille, alors voyageuse en groupe, pas derrière un parasol, hein, mais vraiment avec...
Oh, je te vois bien.
Oui, avec le parapluie. je pense que je foutrais le bazar dans la file, à mon avis. Mais non, moi, je voyage avec mes deux garçons et mon mari, et puis voilà, on a pas mal de petits voyages à notre actif, et un grand voyage, puisqu'on était en tour du monde en 2020-2021. Voilà. Et puis, on est revenu de ce voyage avec des projets et j'ai créé une agence de travel planner. Donc, maintenant, j'accompagne les particuliers qui ont envie de partir en voyage, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, je suis ce petit coup de pouce en bonne humeur, on va dire.
Mais oui, j'en doute pas une seconde. Et est-ce que ce projet était venu pendant le tour du monde, justement ?
Écoute, ce projet, il m'est venu plutôt après parce qu'on a été pas mal sollicités pendant le voyage, de familles notamment, qui demandaient des conseils, qui étaient inquiets de partir avec leurs enfants, qui avaient envie de savoir comment ça se passait, qui avaient parfois envie de voyager mais qui n'osaient pas. Et en rentrant, c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même dommage finalement que ce qui nous anime, qui est vraiment nos projets de vie au quotidien, hein, on va de voyage en voyage, hein, notre vie c'est un petit peu ça. Et ben, c'est dommage que d'autres personnes qui en ont très envie n'osent pas le faire parce qu'ils ne se sentent pas capables de l'organiser. Et donc du coup, je me suis dit, c'est le moment d'essayer quelque chose, de tenter une nouvelle aventure et d'accompagner ces personnes et ces familles à réaliser un petit bout de rêve à eux aussi, puis de leur mettre le pied à l'étrier.
Mais ouais, et parfois, il ne suffit de pas grand-chose. Hein.
Carrément. Et puis je pense qu'il y a des gens qui se révèlent aussi dans les voyages et c'est chouette.
Bon, ben, on part à Istanbul alors.
Avec grand plaisir. C'était notre coup de cœur de notre road trip dans la première partie du voyage, de notre grand voyage. Istanbul, ça a été la grande surprise et vraiment un énorme coup de cœur.
Pourquoi surprise ?
Parce que c'était pas du tout prévu. Bon, enfin, sur la partie de notre voyage en tour du monde, on n'avait rien prévu, puisque c'était le Covid. Hein. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié ce passage parfaitement merveilleux de notre vie à tous. Non, c'était le Covid, donc on savait pas où est-ce qu'on allait d'une semaine à l'autre, et donc on est parti à Istanbul sur un coup de tête parce que c'était possible, parce qu'on n'était pas si loin puisqu'on était en Bulgarie et qu'on s'est dit mince, c'est quand même dommage, on est à côté, on tente le coup, on y va. Donc c'était pas prévu. Et du coup, quand c'est pas prévu, je pense que t'as pas trop le temps de te faire des idées sur ce que tu vas découvrir et tu te fais cueillir en fait. Et on s'est vraiment fait cueillir.
Alors, c'est quoi ton premier incontournable truc, mais vraiment, même pas tu imagines aller à Istanbul sans faire ça ?
Eh bien, je dirais que c'est visiter une mosquée, parce que Istanbul est une ville qui a, je ne sais plus combien, une personne qu'on avait rencontrée qui vivait là-bas nous avait dit, enfin, c'est un nombre incalculable de mosquées, des plus connues aux plus petites, enfin voilà, chose qui n'est pas toujours possible dans les pays musulmans. La Turquie permet... La plupart du temps, vraiment, nous, on n'a jamais retrouvé une porte fermée de mosquée. Et je peux dire qu'on en a fait quelques-unes. Et vraiment, de visiter une mosquée, alors ça demande quand même de respecter un certain nombre de codes, comme dans tous les édifices religieux, j'ai envie de dire, hein, quel que soit le culte. Mais vraiment, voilà, visiter une mosquée, c'est important. Ça demande à se déchausser, à se couvrir pour les femmes et les hommes. Ces messieurs sont censés ne pas montrer leurs jolies cuisses non plus.
Ah, tiens.
Donc voilà. Mais ce qui est super bien fait, c'est que en Turquie, quand vous arrivez dans une mosquée et que vous n'avez pas prévu, on vous prête le nécessaire. Donc non, c'est vraiment... ça a été vraiment une très belle surprise. D'abord, les mosquées sont magnifiques. Elles sont... richement décorées, elles sont très confortables. Moi, j'ai un petit garçon qui adorait se coucher sur les moquettes pour dessiner tout ce qu'il voyait. Donc, c'était assez rigolo. On a fait plein de petites rencontres comme ça, d'autres enfants qui venaient, qui se mettaient avec lui. Alors, évidemment, on ne visite pas les mosquées pendant les moments de culte et on respecte les gens qui viennent y prier, puisque même pendant les moments, entre guillemets, qui ne sont pas les moments de culte, il y a des gens qui viennent y prier. Hein. Mais vraiment, non, c'est pour moi un incontournable. Alors, on a beaucoup aimé Sainte-Sophie, qui est sans doute une des mosquées qui a une histoire la plus riche d'Istanbul. Mais celle qui nous a vraiment saisie, c'est celle de Suleyman le Magnifique, qui se trouve en hauteur et qui est vraiment splendide. Elle a une petite cour intérieure pour faire les ablutions. Elle est vraiment très, très belle. Elle est dans les tons rouges et blancs. Et en plus de ça, il y a des jardins qui l'entourent et elle a une vue en fait sur Istanbul et le Bosphore et c'est assez chouette. Donc voilà, mon premier coup de cœur vraiment, ce serait de visiter une mosquée. Si je dois vous en donner une, visiter celle-ci.
Est-ce qu'il y a un droit d'entrée dans ces mosquées ou est-ce que
non,
tout le monde y
rentre ? Non, puisque ce sont des lieux de culte, c'est vraiment accessible librement. Alors il y a toute une histoire pour Sainte-Sophie qui continue à exister. C'était jusqu'à... En fait, c'était une mosquée qui avait été, non pas désacralisée, mais qui n'était plus utilisée pour lieu de culte. Et le président actuel l'a réinvesti de sa mission première, enfin mission première, seconde. En tout cas, c'est de nouveau un lieu de culte. Donc, elle est de nouveau accessible gratuitement. Avant, il y a 2-3 ans maintenant, le temps passe vite, c'était un musée. Donc, elle se visitait effectivement avec un droit d'entrée, mais c'est plus le cas. Donc, on peut visiter librement les mosquées. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas visiter que des très grandes mosquées. Il y a des petites mosquées, parfois anciennes, qui ont été des églises orthodoxes à des moments. C'est intéressant aussi de voir ça. Et qui sont des petits cocons assez agréables. Des petits lieux de paix aussi, au milieu d'une ville qui bouillonne d'énergie. Donc, c'est assez chouette aussi, quand on visite, d'avoir des petits moments où... on peut se retrouver dans un lieu apaisant, apaisé, et vraiment, on a toujours été hyper bien accueillis par des personnes très bienveillantes. Donc, allez-y.
Donc, faut y aller.
Voilà, allez-y avec une belle curiosité.
Ok. Ton deuxième incontournable, ce serait quoi ?
Alors, mon deuxième incontournable, ce serait le palais Topkapi, un palais immense, dans lequel on va retrouver un certain nombre de choses assez emblématiques des palais de sultans, avec notamment une partie de harem, par exemple. On va y retrouver une partie qui a beaucoup plu, moi, aux garçons, avec une salle où ils exposent toutes les armes et toutes les, qu'on appelle ça, les armures d'apparat, tout en or, c'est incroyable. Donc, c'est assez chouette. Et puis en fait, un enchaînement de patios, de salles de réception, avec à chaque fois des mosaïques, un travail à la fois sur de la verrerie, qui est vraiment... qui est impressionnant en fait, c'est vraiment un lieu qu'on n'a pas l'habitude de nous, occidentaux, de découvrir, donc c'est assez chouette, qui offre plein de petites terrasses avec des vues de la même manière. Je vous invite à le visiter avec un guide, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les codes en fait, hein. On n'a pas les codes pour tout comprendre, et avoir quelqu'un qui vous donne quelques petites informations, ça vous permet quand même de bien intégrer à quoi servent certains lieux, comment se passer... voilà, des rencontres avec le sultan, plein de petites informations, c'est assez intéressant. C'est un lieu qui est très grand, et en fait, nous, on a hésité en fait, sur le moment de la visite. On peut acheter le billet du harem séparément du billet du palais. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut bien, dès le départ, jauger un peu le temps qu'on va passer dans le lieu. Et on ne peut pas acheter le billet du harem, revenir au harem un jour suivant. Il faut vraiment acheter palais plus harem ou... que palais, entre guillemets. On ne peut pas choisir que harem. On serait obligé de reprendre un couple gagnant, ce qui fait une dépense supplémentaire. Mais c'est vraiment... moi, c'est un lieu qui était un peu inattendu. Je ne savais pas trop ce qu'on allait trouver derrière ces grandes murailles. Et c'était vraiment plein de petites pépites, de lieux richement ornés, entretenus, mais alors au cordeau. C'était assez chouette. Vraiment, c'est intéressant de voir comment finalement un palais à Istanbul, à quoi pouvait-il ressembler quand on connaît nos châteaux à nous, quoi.
Bah, c'est ça.
C'est vraiment un lieu très chouette et assez agréable pour les enfants de la même manière parce que on rentre, on sort, il y a des jardins, ça peut courir un peu à l'extérieur, ça re-rentre, donc c'est assez facile.
Pour ta visite guidée, tu l'as trouvée sur place ou
ouais,
avant?
Je l'ai trouvée sur place. Après, il y a plein de guides en fait indépendants qui peuvent vous accompagner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris un guide indépendant ce jour-là qui nous a accompagnés à la fois là et puis sur un autre lieu, qui était un étudiant en histoire de l'art à la fac à Istanbul. Et qui était chouette, qui était vraiment chouette, parce que du coup, on a pu aussi, sur le temps où on papotait à droite à gauche, il nous a raconté plein de choses sur Istanbul, sur la vie sur place. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un peu de off. Le fait d'avoir un guide rien qu'à soi, entre guillemets, le permet. Quand on est en groupe, on a un peu moins de cette proximité, en tout cas.
Et il peut davantage s'adapter aux enfants.
Voilà, j'allais y venir. Clairement, il peut aussi s'adapter aux enfants. Et c'est surtout que, si pendant 10 minutes, votre enfant veut manger une glace, il ne perturbe pas le reste du groupe.
C'est ça.
Vous papotez avec le guide, lui mange sa glace. Tout le monde descend un peu en excitation et en énergie, puis on réattaque la suite tranquillement. Et puis, il va s'adapter aux enfants aussi, parce qu'il va assez rapidement, tous les guides sont assez intelligents pour ça, jauger quels sont les centres d'intérêt des uns et des autres, voilà, attirer leur attention sur des détails que nous, adultes, on ne verrait pas, mais qui vont intéresser les enfants en fonction de leur âge et des centres d'intérêt. Mais oui, vraiment, je recommande d'avoir un petit accompagnateur, même si ça peut se visiter évidemment sans, mais c'est dommage de ne pas avoir cette petite option.
Tout à fait. Ton troisième incontournable ?
Mon troisième incontournable est un lieu de vie, parce que ce qu'on a adoré aussi à Istanbul, c'est une ville qui est riche en culture, évidemment, c'est un brassage de culture pendant des siècles, et ça se ressent vraiment, et ça, je pense que tous les visiteurs le ressentent et le découvrent, mais ce qu'on a aussi adoré, ce sont les Turcs, et qu'on a trouvé particulièrement chaleureux, particulièrement sympas, curieux, qui ont du plaisir à échanger avec les gens. Enfin, voilà, y a vraiment une envie d'échange qu'on a vraiment appréciée. Et on a découvert le pont de Galata, qui est le pont qui rejoint en fait les deux rives, entre la rive, on va dire, asiatique et puis la rive européenne. Et sur ce pont, le soir, au moment, vraiment en fin de journée, presque au moment du coucher du soleil, beaucoup, beaucoup de Turcs viennent faire de la pêche à la ligne. Et donc, vous avez sur toute ce long pont, qui est vraiment un pont assez immense, vous avez plein de Turcs, plutôt des hommes, mais quelques femmes aussi, qui pêchent et qui pêchent de tout petits poissons et qui passent leur soirée à pêcher. Alors, y a vraiment une ambiance un peu particulière à cet endroit-là. Et donc, on y est allé plusieurs fois, mais on marchait sur ce pont et puis voilà, les enfants, ils sont un peu curieux, regardaient la pêche. Certains pêcheurs montraient les poissons, d'autres montraient leur canne à pêche. Il y a une vraie passion pour la pêche à la ligne pour certains Turcs, et du coup c'était ces petits moments-là qui étaient assez chouettes. On aimait bien aussi parce que c'est un lieu qui permet de voir le coucher de soleil sur Istanbul, ce qui est magnifique aussi. On voit la skyline qui se décolle, c'est assez chouette. Et puis en fait, tout au bout de ce pont, quand on arrive sur la rive asiatique, sur la gauche en descendant, il y a un marché aux poissons. Vraiment un marché très authentique, sur lequel vous pouvez acheter du poisson hyper frais et où il y a des vendeurs de petites sortes de pita, en fait, avec des maquereaux grillés et épicés, donc une sorte de sandwich de poisson, si on peut appeler ça comme ça, qui sont absolument délicieux pour qui aime le poisson, et qu'on allait manger comme ça au bord du Bosphore, assis avec les Turcs. Et c'est un endroit qui est très convivial, populaire. Alors évidemment, c'est un boui-boui, hein, c'est un barbecue de rue. Hein,
donc c'est local.
Exactement, c'est local. Mais c'est délicieux, c'est vraiment chouette. Donc il y avait un peu ce petit rituel, on y est allé deux, trois fois. Une fois qu'on a découvert un endroit où on aime bien manger, malheureusement on y retourne souvent. Donc on y est allé deux, trois fois pour profiter de ce petit resto finalement pas cher et de ce petit moment où on papote avec les gens quand on attend dans la queue. Qui veulent vous faire découvrir des choses, donc c'est un lieu assez sympa pour rencontrer les Turcs, je trouve.
Ok, ton quatrième incontournable.
Mon incontournable, ce serait un moment. Moi, je conseille à ceux qui vont à Istanbul de prendre de la hauteur. Il y a plusieurs points de vue qui le permettent. la tour de Galata, comment ça s'appelle, la mosquée de Souleymane, j'en parlais tout à l'heure. Mais nous, on a vraiment apprécié de pouvoir manger, en fait, il y a beaucoup de rooftop. Rooftop, tout de suite, on se dit, oulala, ça va être un cocktail à je sais pas combien. Non, il y a vraiment plein de restaurants avec des terrasses en hauteur, qui peuvent être des restaurants plutôt très abordables. Mais de pouvoir manger comme ça et d'avoir la vue sur Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment... Alors là encore, hein, c'est un moment calme, vous êtes un peu en hauteur, vous pouvez voir l'Estambouliot s'agiter, la vie autour, les tramways, tout ça. Mais vous avez vraiment cette vue sur les toits des mosquées qui sont assez emblématiques, qui font partie des cartes postales hein, finalement d'Istanbul, mais qui ne sont pas surfaites. Vraiment, c'est un endroit assez agréable. Donc, prendre le temps de manger le midi ou le soir, les vues sont différentes. Le soir, vous avez le soleil qui se couche, mais... D'avoir la vue sur ces deux mosquées, c'est assez chouette.
Tu as cité la mosquée bleue, tu n'en as pas parlé dans les mosquées au début. Ouais. S'il y a une raison ?
Oui, alors quand nous on y est allés, la mosquée bleue actuellement, je pense que maintenant c'est terminé, mais elle était en travaux de réfection. Donc elle était accessible aux croyants, mais elle n'était pas accessible aux touristes, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas pu y aller. De ce qu'on en sait, pour en avoir discuté et vu des photos, c'est une mosquée qui est très belle. Mais c'est en général un duo gagnant. Sainte-Sophie d'un côté et la mosquée
bleue. C'est ça, en général.
Elles sont vraiment sur la même place, elles se font pas face, mais elles se répondent en tout cas. Et souvent, quand vous en visitez une, vous visitez l'autre. Enfin, l'ambiance est complètement différente pour le coup, mais puisque vraiment Sainte-Sophie a gardé son côté byzantin très très fort avec ses mosaïques, avec des inscriptions et puis une décoration et des peintures assez... Enfin, très byzantine, c'est vrai que ça frappe. Pour le coup, la mosquée bleue, on est vraiment sur une décoration plus... avec de l'art islamique, en tout cas. Et... Non, c'est vraiment deux ambiances différentes. Mais nous, on n'a pas vu celle-ci, donc je ne pourrais pas vous la mettre dans le top 5.
On la garde sous
Gardez-la
le coup,
dans un coin.
Ouais. Bon, on arrive au cinquième. Quel est ton dernier incontournable ?
Alors, c'est un lieu qu'on a découvert avec notre guide, qu'on avait du mal à se figurer, qui s'appelle la Basilica Citerne, qui est en fait une réserve d'eau douce qui a été construite à l'époque où Istanbul était byzantine et qui est absolument immense, qui est comme une sorte de grande cathédrale sous la ville, qui se trouve pas très loin de la mosquée Sainte-Sophie. Et en fait, vous rentrez, on descend des escaliers, et on se retrouve sous terre avec des colonnades et des colonnades et des colonnades sur des petites plateformes, parce qu'en fait, cette citerne qui pourrait toujours être en activité, à certains moments de l'année, a de l'eau au fond, et on se retrouve dans un édifice un peu, c'est assez étrange, entouré de plein de colonnes avec un travail de lumière un peu tamisé, et puis on déambule comme ça, tout à l'intérieur de cette citerne. Alors, c'est un lieu qui a servi de décor à de nombreux films, parce que c'est vraiment très étrange, de James Bond notamment, enfin bref. Mais c'est vraiment un lieu un peu secret, je trouve qu'il a une ambiance un peu secrète, qui est pleine d'histoire aussi, parce que ça raconte aussi comment est-ce que les Byzantins avaient imaginé aussi la construction de cette ville, pour la rendre autonome sur plein de niveaux, qui raconte aussi comment des esclaves ont construit cette citerne, évidemment, enfin, cette espèce d'énorme réserve, avec des vestiges. Il y a une colonne avec des larmes qui a été construite par certains des esclaves pour raconter aussi tous ces morts qui entachent finalement cette construction. Enfin voilà, non, c'est un lieu assez intéressant, avec une mythologie un peu particulière. Médée se cache dans la citerne. C'est un lieu assez chouette, assez étrange, assez chouette. Alors, très instagrammable, hein, mais c'est un très beau lieu, très intéressant. Qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas. Et la porte d'entrée, enfin, c'est une espèce de petite porte, on se dit ok... Jusqu'à ce que nous, le guide, nous dise vraiment faut y aller, ça serait chouette parce que vous allez louper quelque chose. Nous, on se disait, nous, on n'a pas envie de descendre dans les égouts, ça va être quoi. Enfin, on ne figurait pas du tout ce que c'était. Alors que c'est vraiment un très beau travail. C'est vraiment un très, très beau travail.
Bah, j'en avais jamais entendu parler. Donc,
voilà, c'est une petite pépite cachée d'Istanbul. Trop bien. Donc voilà.
Je t'avais demandé, au-delà des cinq, s'il y avait une activité en particulier qu'on peut faire avec des ados.
Alors, globalement, à Istanbul, je pense que les ados en ont un peu pour leur compte. Mais j'ai gardé de côté, moi, le souk pour faire avec les ados. Les souks, même, hein, parce que Istanbul, voilà, y en a plusieurs. Alors, il y a le Grand Bazar, évidemment, qui est vraiment immense, hein, faut quand même se le dire, qui est organisé par y a certains secteurs. Hein, y a un secteur pour l'or, un secteur, voilà, c'est un peu cartographié, mais c'est pas si simple de s'y repérer. On s'y perd assez facilement. Et moi, je trouve que le souk ou les marchés en général sont des lieux assez sympas pour les ados. On n'a pas encore des ados, mais on sent que ça commence à venir un peu. On leur donne une petite cagnotte, on leur dit que leur souvenir, c'est eux qui doivent se les acheter, se les négocier. Et puis voilà, c'est vrai qu'au souk, on trouve plein de choses. Alors nous, on fait attention aussi à leur rappeler que certaines choses ne peuvent pas se ramener en France parce qu'on risque d'avoir des problèmes à l'aéroport avec les faux maillots du Real Madrid.
Ah oui, c'est quoi ? Ah, une bonne idée.
Voilà, oui, parce que la Turquie, les contrefaçons, ils sont bons aussi. Hein, donc ça, c'est pas un bon plan, par contre, méfiez-vous. Mais par contre, il y a plein de petites choses, des souvenirs. Enfin voilà, moi, je sais que les garçons ont adoré et je crois qu'on a fait à peu près tous les bazars d'Istanbul. Parce qu'on y prenait tous du plaisir, en fait. Et puis, c'est assez beau, que ce soit les épices, que ce soit... Il y a toujours quelqu'un qui vient vous faire goûter quelque chose. Il y a un échange assez sympathique avec les vendeurs aussi. Donc, non, c'est plutôt agréable. Et moi, je trouve que c'est un endroit sympa aussi pour des grands qui veulent avoir un peu de liberté, tout en étant quand même un minimum encadré. Je trouve que ça peut s'y prêter assez facilement.
Donc, quel est le truc le plus insolite qu'ils ont réussi à négocier ?
Luc, notre petit dernier, a non pas négocié, mais a été curieux de savoir ce qui était dans un bocal quand on était au marché égyptien, et c'était des sangsues.
Ah, quelle horreur !
Et alors, il a été curieux au point que le monsieur joue le jeu et lui les mette dans les mains, et il trouvait ça extrêmement drôle. Il m'a demandé s'il pouvait adopter une sangsue comme animal de compagnie.
Mais non !
Alors, moi, j'étais cachée à ce moment-là. C'est quand même assez spécial. Voilà.
Mais quelle drôle d'idée.
En Turquie, les sangsues, certaines personnes s'en servent encore pour des raisons médicales. Donc voilà. Et lui, voilà, il avait trouvé ça vraiment très très chouette.
Mais tu n'as pas cédé.
Non, je lui ai dit que ça allait être compliqué dans la voiture. J'ai surtout vite dégarpé en disant à son père de gérer la fin de la situation. Mais il en parle encore, hein, de sa sangsue. Hein.
Ah oui, il regrette de pas pouvoir, de pas l'avoir amené.
Bah maintenant, il se demande un peu pourquoi lui trouvait ça chouette alors que tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais bon.
C'est drôle.
Ouais.
Je t'avais aussi demandé qu'est-ce qu'on fait quand il pleut ? Parce qu'il peut aussi pleuvoir à Istanbul.
Ouais. Bah tout ce qui va être... les mosquées permettent aussi évidemment de s'abriter. Les souks, la basilique à citerne, on peut se planquer sans aucun souci. En fait, il y a quand même beaucoup de lieux. Il y a des... Bon, j'ai pas évoqué, mais on peut beaucoup promener, il y a des parcs, il y a plein de petites choses comme ça. Mais il y a beaucoup de lieux de visite. Istanbul, ça reste quand même une capitale culturelle importante, donc il y a vraiment pas mal de lieux de visite avec des propositions culturelles, mais pas que. Voilà, je pense que si vous êtes à Istanbul pas de chance, pas une super météo, nous on a eu, d'ailleurs, je suis en train de me souvenir, on a eu une journée de pluie quand on a fait Topkapi. En fait, on rentrait, on sortait, on s'abritait, et puis voilà. Mais oui, non, c'est une ville qui peut se visiter toute l'année sans problème, qui a plutôt un climat agréable.
Le seul truc, c'est quand tu fais la queue à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de monde, ça peut être le moment gênant.
Bah, c'est ça. Mais là, t'inquiète pas, les vendeurs de parapluies sont là.
On a fait le tour de tes incontournables. Est-ce qu'on peut faire un rapide point logistique ? Comment on va à Istanbul ?
Eh ben, avec plaisir. Alors nous, on y est allé en voiture. C'est possible.
C'est pas le plus rapide.
Voilà. Nous, ça nous a pris plus... On a pris du temps. Hein. On était sur un long road trip. On peut le faire en voiture depuis la France. Il faut compter à peu près 25 heures.
Oui.
Chacun ses choix, mais c'est possible. On peut rejoindre Istanbul en train. C'est possible aussi. Alors, c'est un long périple également.
Ça, c'est chouette.
Ouais, on peut le faire. Alors, moi, je le conseillerais plutôt sur un itinéraire d'été, par exemple.
Ah, oui, il faut du temps.
Trois semaines de voyage, et puis du coup, vous faites plusieurs étapes. Et Istanbul peut être un peu le point le plus loin, puisque là, du coup, vous traversez l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Serbie, la Bulgarie. Enfin, voilà, il y a plein de pays qui sont hyper intéressants aussi et qui peuvent être des étapes chouettes. Et du coup, profiter d'un pass interrail et puis faire un peu un long périple d'été, ça peut être assez chouette. Sinon, en étant moins raisonnable, en tout cas, c'est possible d'aller à Istanbul depuis Paris, ça représente 3h, 3h40 à peu près. C'est pas une destination qui est très loin pour nous, Français.
Et qui est bien desservie, oui.
Et qui est bien desservie, je dirais, qui est bien desservie. Et puis, ça peut être, comme c'est une destination qui peut être visitée été comme hiver, voilà, c'est une jolie petite destination aussi pour un city trip hors saison, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette.
On peut aussi y aller à vélo pour les plus courageux.
Alors là, on est sur du gros courageux, mais on peut y aller à vélo. Il y a des itinéraires européens de cyclotourisme qui longent effectivement la Croatie, la Slovénie, la Serbie, tout ça, puis qui descendent par la Bulgarie jusqu'en Turquie et même au-delà. Mais oui, on peut y aller à vélo. Il y a des grands aventuriers qui le font.
Mais oui, et j'en ai même eu un à mon micro qui est parti en famille. C'est les Two Bike Free qui a fait ce grand itinéraire donc avec une petite fille qui avait entre 1 et 2 ans à l'époque, il me semble. Et ils sont repartis cet été, ils sont en Norvège. Donc ils aiment bien hein, les trucs compliqués avec des enfants parce qu'il y a un bébé en plus maintenant. Donc oui, pour ceux qui ont envie, c'est possible.
Exactement. Mais c'est un autre voyage. Hein. C'est voyager ça. À vélo, c'est chouette aussi. Hein.
Mmh, complètement. Sur place, il y a des transports en commun ?
Oui. Alors vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, on était beaucoup en tramway, parce qu'il y a un maillage de tramway qui est plutôt super bien fait. À pied aussi, beaucoup, parce que c'est chouette de pouvoir découvrir à pied, ça se fait bien. Et puis en bateau, puisque pour passer d'une rive à l'autre, vous utilisez les navettes fluviales. Et... Ah ouais. C'est vraiment une ville qui est super bien organisé pour ce transport, il n'y a pas de souci. Après, ça peut être du taxi aussi, c'est une grande ville.
Vous aviez trouvé ou cherché un quartier en particulier quand vous étiez
dormir.
Là-bas ?
Ouais. Alors nous, on a dormi tout proche de Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue, ce qui était assez chouette. Enfin, nous, on aimait bien aussi l'énergie de ce coin-là. Maintenant, si on devait y retourner, on a découvert un autre quartier pour lequel on a eu un gros coup de cœur, qui est le quartier de Kalikoy, qui se trouve côté asiatique, qui est un quartier que moi je n'ai pas honte de dire un peu plus bobo. il faut assumer parfois ses mauvais côtés. Et qui est chouette. C'est un quartier qui est chouette, qui a une belle énergie, dans lequel on a trouvé un supermarché dans le quartier de Moda. Enfin, vraiment, plutôt un quartier épicurien, en fait. Et on se dit, si on y retourne, qu'on sera plutôt de ce côté-là, parce qu'on a bien exploré... la rive européenne, ouais. Et du coup, on va y retourner, c'est certain, en Turquie, mais on ne sait pas encore quand. Mais du coup, on ira de ce côté-là.
Ouais. D'accord. Et pour finir, on mange quoi en Turquie ?
On mange bien.
Ah oui ? Oh la vache !
On mange, oui. Alors nous, je crois qu'en une semaine, on avait un peu abusé, on avait pris 4 kilos, tu vois.
Donc, ah oui.
Non, on mange très bien. On mange très bien de la bouffe de rue, on mange très bien. Il y a le mythique kebab qui n'est absolument pas ce que...
Qui n'est pas du tout ce qu'on croit. Oui.
On connaît. Hein, on n'est pas sur un grec sauce mayo, là.
Non.
On est vraiment sur une cuisson de viande avec des épices qui peut... Enfin, je pense qu'il y a autant de kebab que de ratatouille dans le sud de la France.
Mm-hmm.
Écoute, nous, on a eu un coup de cœur pour un restaurant qui s'appelle Sia Sofrasi, qui est un restaurant... Enfin, c'est un chef qui, à l'origine, en fait, est reparti à la recherche de la culture gastronomique de la Turquie. En fait, l'oralité, la culture gastronomique de la Turquie passe par l'oralité, puisque c'était les femmes qui cuisinaient, qui se transmettaient, mais il n'y avait pas vraiment de recettes. Et c'est un chef qui est vraiment reparti chercher des personnes qui étaient capables de lui enseigner, de lui témoigner et de collecter un petit peu toutes ces recettes. Et on avait découvert ce resto, on y est allé. D'abord, on y a super bien mangé, on y a mangé des choses très étonnantes. Des associations de goûts qu'on n'imaginait pas, des céréales que je suis incapable de donner le nom. Enfin, tu vois, vraiment des choses très, très différentes. Et c'était vraiment une adresse très intéressante en termes de découverte culinaire. Mais globalement, sincèrement, celui qui n'arrive pas à manger à Istanbul, c'est qu'il vraiment, il est difficile.
Ah oui, on est d'accord.
On mange très, très bien et on mange de tout. Il y a des fruits magnifiques. Enfin, voilà. Nous, on y était en... fin octobre, début novembre, et franchement, on a mangé des dattes, c'était du miel, enfin vraiment, non, c'était, la nourriture est délicieuse, le poisson était très très bon, très frais, c'était top. Et on n'a pas fait des restaurants de foufou, hein, c'est la culture gastronomique
c'est fou.
Turque qui est vraiment, qui nous allait bien. Sincèrement, on a pris du poids, mais bon,
c'est ça.
On a éliminé après. Mais c'est un plaisir aussi. Enfin, moi, le voyage, ça passe par tous les sens. Et la gastronomie en fait partie. Donc,
Absolument.
N'oubliez pas de manger quand vous allez à Istanbul. On avait surnommé Istanbul, Istanbouffe.
Ah, pas mal.
Parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Quoi.
Vous aviez continué par quelle ville ou pays après ?
Et après, on était retourné en Bulgarie pour pouvoir passer en Grèce, puisque la Turquie et la Grèce sont toujours pas trop copains, donc on pouvait pas passer de l'un à l'autre. Il fallait aller se reblanchir un peu en Bulgarie pour repasser en Grèce. Et avec le Covid, c'était encore plus compliqué.
Tellement simple.
Ah, la géopolitique. C'est une longue histoire d'amour entre les pays. Mais bon, les peuples, finalement, s'en moquent un peu. C'est ça qui est chouette.
Bah écoute, on a fait un super tour. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour un city trip, comme tu l'as dit, à Istanbul. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir. C'est une destination que je trouve qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Et puis surtout, qu'on ne soit pas victime d'a priori.
Ah oui, non, surtout pas. Il faut y aller. C'est vraiment extraordinaire. C'est quoi votre prochain voyage ?
Écoute, on n'a pas encore programmé le prochain voyage, mais normalement, en tout cas celui qui devrait arriver dans un futur...
roulement de tambour.
Celui qui est sûr qu'on va programmer, c'est qu'on a le meilleur ami de mon fils aîné qui part en bateau pendant un an. Et donc, on va organiser le moment où on va les retrouver dans les Caraïbes.
Oh, c'est dur.
Ouais, mais c'est trop loin, donc il y aura sûrement d'autres voyages avant.
Ah, c'est chouette.
Avoir du mal. Mais oui, l'idée, c'est de les retrouver dans les Caraïbes, je ne sais pas encore où, probablement à la Toussaint 2023.
Ah oui, oui, il y aura des trucs avant, c'est sûr.
Ah oui, c'est clair. Mais bon, celui-là, je peux te dire qu'il va arriver. Les autres, c'est des surprises.
Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'avais dit cet été, on va en Tunisie, et vous êtes allé en Tunisie, ouais. Donc les Caraïbes, c'est sûr.
Oui, bon, ça, on va combler. Hein,
oui, je ne suis pas inquiète. Merci beaucoup, Pascal, pour tous ces incontournables et cette petite virée en Turquie.
Avec plaisir, Stéphanie, c'est un plaisir, vraiment.
Bah pour moi aussi. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familleetvoyageavecunes.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière ? Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.